Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Elle s'en va, c'est demain que formellement et officiellement Theresa May démissionnera de son poste de leader du parti conservateur de Grande-Bretagne. Elle s'en va, vaincue à la fois par les divisions et peut-être les ambitions au sein de son propre parti, mais aussi de l'opposition travailliste avec qui elle a échoué dans ses discussions pour faire accepter son accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Elle s'en va, mais la question du Brexit reste entière et depuis les étranges élections européennes dans le pays. Elle polarise encore davantage la vie politique britannique. Elle s'en va, mais les problèmes demeurent. Où va la Grande-Bretagne? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Sarah Picard, bonjour.
Bonsoir. Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteure du livre bilingue français-anglais Civilisation britannique, British Civilization, dont c'est la 14e édition aux éditions Pocket. Et Jeremy Stubbs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris et chroniqueur à la revue Causeur. Theresa May part donc demain, et vu les difficultés auxquelles elle était confrontée, cela paraissait assez inéluctable. C'est votre avis également, Sarah Picard?
Allez-y. Theresa May a démissionné parce que l'échec qu'elle a vécu pour essayer d'arriver à avoir un accord pour le Brexit dans le pays. Donc elle a été remplacée en tant que chef de parti et ensuite Premier ministre.
Et donc c'est l'échec patent et réel qu'elle a vécu avec son accord sur le Brexit rendait ce départ inéluctable selon vous, Jeremy Stubbs? Elle ne pouvait pas faire autrement?
Non, elle ne pouvait pas faire autrement, même si il faut dire que l'échec, c'est un échec partagé. C'est un échec de tous les politiciens, et je dirais aussi c'est un échec de l'autre côté de la Manche, à Bruxelles, parce que l'idée c'était de finir avec un accord où tout le monde serait d'accord, et en fin de compte, personne n'est d'accord, et le sacrifice, c'est Theresa May, en quelque sorte.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que d'habitude, dans les négociations, on décide ce qu'on veut, et après, on négocie. Theresa May a fait le choix de négocier, et après, présenter le résultat au Parlement, et le Parlement a dit non. Donc, c'était nuisible pour le pays, parce que les parlementaires n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Donc, en effet, tous les partis politiques en souffrent, le pays en souffre, mais c'est parce qu'une processus de négociation à l'envers.
Il est peu probable qu'ils se mettent d'accord avant ou après, malheureusement. Et ça, c'est le grand problème du Brexit. C'est une sorte de dilemme. Je pense que les Européens et Theresa May ont commis tous les deux des erreurs fondamentales. En tant que négociation, ces négociations constituent un échec.
Même si elle reste pour expédier les affaires courantes, comme l'on dit, le temps que le Parti conservateur se trouve un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre, parlez-nous un peu de la procédure. Ça peut durer combien de temps? Comment ça va se passer, Sarah Picard?
Alors, on vient de décider que ça va être un processus un peu plus simple. C'est le 1922 Committee, donc l'association des députés, qui ont décidé d'accélérer le passage pour avoir un nouveau leader et donc Premier ministre, pour ne pas avoir que ça dure dans les temps. Et donc, en ce moment, il y a des nominations jusqu'à lundi. Et après, tout de suite après, le jeudi prochain, on va avoir le premier vote. Et donc, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Ça veut dire que pour rester dans la course, les candidats doivent gagner 5% des voix des députés. Donc, c'est le député qui vote d'abord. Et ensuite, il y a un deuxième tour, si vous voulez, où il faut avoir 10% des voix pour rester dans la course. Et ainsi, ensuite, quand il ne reste que deux candidats. Et quand il reste deux candidats, donc le 22 juin, ce sont les membres du Parti conservateur qui vont voter par vote postal pour décider. Donc, environ 120 000 personnes qui vont décider qui va être le nouveau chef de parti et le Premier ministre.
Jeremy Stubbs, le fait de devoir passer par les membres du parti, un par un, les 120 000, est-ce que ça implique que c'est un Brexiteur dur qui va être désigné?
Non, tout le contraire. Tout le contraire. C'est-à-dire que le système est en deux phases. D'abord, les députés votent, et ensuite, les membres votent sur les deux candidats
qui restent.
Oui. Donc, un candidat comme Boris Johnson, par exemple, il a la cote auprès des membres du parti. mais pas tellement auprès des députés, ses collègues. Donc pour lui, la grande difficulté, c'est de passer à travers les députés pour enfin être présenté aux membres qui vont sans doute, si jamais il en arrive là, les lire.
Il pourrait y avoir donc une surprise au moment de ce premier filtre, Sarah Picard ?
C'est-à-dire que, comme mon collègue vient de dire, que si les députés écartent Boris Johnson, parce qu'il n'est pas très populaire, parce qu'il est un peu vulgaire, menteur, extrémiste, etc., et qu'il n'a pas une bonne réputation, on a vu quand il était ministre des Affaires étrangères, il risque de l'écarter pour avoir quelque chose, quelqu'un plus modéré. Mais donc c'est un homme politique populaire parmi les membres et parmi les simples membres et les simples électeurs. Mais justement, il faut passer par les députés qui probablement vont préférer quelqu'un comme Michael Gove, par exemple.
Alors justement, il y a aux dernières nouvelles presque une douzaine de candidats. Ça tourne autour de ce chiffre-là. On saura exactement, vous l'avez dit, lundi. Il y a le plus connu. Donc Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, mais il y en a d'autres, Michael Gove que vous avez cité, Dominic Raab, Jeremy Hunt, qui se détache vraiment dans cette course, Jeremy Stubbs.
Eh bien, pour être précis, le dépôt des candidatures s'ouvre à 10h lundi et fermera à 17h. Donc pour le moment, rien n'est officiel, mais on a tous ces noms-là. Pour le moment, personne ne se détache. Il y a des individus qui sont très intéressants, qui ont réussi à attirer l'attention sur eux. Par exemple, Michael Gove, tout le monde le connaît parce qu'il est là depuis longtemps. Il y a Jeremy Hunt qui est le ministre des Affaires étrangères. Tout le monde le connaît parce qu'il est là. En revanche, il y a quelqu'un de nouveau comme Rory Stewart, qui est un ministre junior, mais qui a fait beaucoup parler de lui en faisant des sortes de promenades autour du pays ces dernières semaines, et qui a des idées, on peut dire, un peu nouvelles, un peu modérées. Donc, lui, il pourrait être une surprise.
Mais simplement, le système accéléré pour les élections va faire du mal justement aux personnes qui sont moins connues, qui n'ont pas le temps de faire de l'énergie et faire du bruit, un buzz autour d'eux. Et donc, c'est un système qui défavorise ces nouvelles personnes.
Je pense que il me semble que Sarah se leurre un peu là. Ce qui est différent maintenant, c'est le nombre de personnes qui doivent appuyer la candidature qui a augmenté. Mais le rythme est bien celui qu'on avait prévu déjà il y a plusieurs semaines.
Oui, parce qu'il faut donc être appuyé par un certain nombre de députés. Je crois que c'est 8, c'est ça?
Au total, oui.
Ce qui me frappe dans ces images, les visages de ces candidats devant moi, et ce qui me frappe, c'est que sont majoritairement des hommes, blancs.
Oui, c'est quelque chose que vous regrettez.
C'est une déception pour moi de voir autant d'hommes. Et ça ne m'étonne pas parce que ce système qui a tellement fait souffrir Theresa May, ça ne m'étonne pas.
C'est la deuxième première ministre conservatrice en plus qui s'en va. Et il faut dire quand même qu'il n'y a pas que des hommes blancs là-dedans. Hommes, ni blancs, ni, comment dirais-je, chrétiens ou agnostiques.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi des élus femmes au sein du Parti conservateur, c'est ça
Qui l'ont fait partir. Parmi les candidates, en fait, il y a Esther McVeigh et Andrea Leadsom, qui sont en fait les plus farouchement pro-Brexit.
C'est vrai.
Quel que soit le vainqueur, il va se trouver face à la même situation que Theresa May. Même parlement, même composition, une question du Brexit toujours pas résolue. Comment ça pourrait mieux fonctionner alors que la situation est fondamentalement la même, Sarah Picard ?
Je ne vois pas comment ça peut être résolu rapidement. Si certains candidats disent que on va résoudre ces problèmes tout de suite et ça va très bien se passer, ou Boris Johnson qui veut dire que même si on n'arrive pas à en avoir un accord le 31 octobre, on sort, ou Michael Gove qui dit « Oh, c'est pas grave si on ajoute un peu de temps dans les négociations », enfin, je dis, on ne voit pas comment... là, je crois qu'on peut être d'accord qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir.
Jeremy Stubbs, vous êtes d'accord, justement, ou pas?
Il y a deux possibilités. On choisit quelqu'un qui demande une prolongation, en sachant qu'il n'est pas certain que l'Union européenne accorde cette prolongation. On a l'impression que M. Macron, en particulier...
Particulièrement dur, hein.
Voilà, ou dur ou pas, qui sait, mais du moins, c'est son point de vue. Donc, il se peut qu'on aille vers le 31 octobre, quoi qu'il arrive. La question ensuite, c'est si on élit quelqu'un qui assume cette date comme sortie, quel va être son pouvoir face à un Parlement qui ne veut pas sortir sans un accord? Ça, c'est la grande question constitutionnelle en ce moment.
En effet, parce que les candidats, comme justement Boris Johnson et d'autres, promettent d'être capables de renégocier certaines choses, par exemple la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
Le fameux filet de sécurité, le backstop en anglais.
Le backstop. Mais vu que l'Union européenne a dit plusieurs fois non, ce n'est pas négociable, je ne vois pas comment ces promesses peuvent être accomplies.
Et oui, Jeremy Stubbs, les leaders conservateurs qui disent qu'ils veulent renégocier avec l'Union européenne, qui a dit à plusieurs reprises, à 27, que l'accord n'était pas négociable, est-ce qu'ils y croient vraiment ou est-ce que c'est pour la campagne, quoi, tout simplement?
Ben, il faut qu'ils y croient parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la réalité à laquelle ils vont faire face après. Ce qui est sûr, c'est que ce soit le parti conservateur ou tout autre parti, en ce moment, c'est l'arrivée de Monsieur Farage qui a tout changé. Il y a une pression immense qui dans la source, c'est vraiment la publicité qu'il génère autour de sa personne. Et ça met une pression énorme pour être encore plus radical. Plus radical peut-être que les gens ne voudraient l'être sans lui.
Tout à fait, une surenchérie sur les positions par rapport à Brexit. Mais je tiens à dire que dans les élections européennes et qui viennent d'avoir lieu, et le Royaume-Uni a pu voter dans ces élections, aussi berlioz que ça peut paraître. Ce sont les partis qui avaient une ligne claire pour ou contre le Brexit qui ont gagné le plus de voix. Et ensemble, il y avait plus de voix et plus de sièges pour les partis qui souhaitent rester. Donc on est dans une situation assez bizarre.
Alors on va en parler, si vous voulez bien, de ces élections européennes. Un petit peu bizarre, hein, parce qu'on ne sait pas combien de temps les eurodéputés britanniques vont siéger à Strasbourg. Les conservateurs et les travaillistes ont enregistré, disons-le, Jeremy Stubbs, de mauvais résultats à ces élections.
On a été ratatinés.
Absolument.
Faut le dire.
Et excellent résultat, en revanche, du Brexit Party de Nigel Farage, premier parti, et des libéraux-démocrates qui sont clairement anti-Brexit pour le maintien dans l'Union européenne. Est-ce que la vie politique britannique, et les Verts aussi, effectivement, est-ce que la vie politique britannique est en train de se redéfinir totalement sur cette question du Brexit?
Pas selon les résultats des élections européennes. Parce que les élections européennes sont spéciales. Et je ne vois pas Nigel Farage arriver à un tel résultat dans des élections générales.
Elles sont spéciales pour une raison de mode de scrutin traditionnel britannique qui est le first past the post. Et là, aux élections européennes, on est sur de la proportionnelle intégrale.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait que les gens ont voté pour des raisons très différentes là. Et il est vrai que ça tourne autour du Brexit et qu'il y a, il faut le dire, un ras-le-bol général parmi les électeurs face à l'inaction ou l'indécision du gouvernement et, au-delà du gouvernement, du Parlement.
Et du Parlement.
Ce sont tous les politiciens qui...
Si on est dans le même panier un petit
exactement.
Peu. Ouais, Sarah Picard, les gens en ont assez de ce feuilleton. On l'a suivi, nous, heure par heure, pratiquement, tous les soirs, pendant plusieurs semaines, ces votes à répétition aux communes. Est-ce que les gens en Grande-Bretagne on sont tout simplement en train de dire « ça suffit, quoi, maintenant ?»
Oui, la classe politique souffre, mais je peux dire que c'est le peuple qui souffre, parce que pendant tout ce temps monopolisé par le Brexit et les non-négociations, etc., tous les autres politiques passent à la trappe. Donc, le logement, la sécurité sociale, le système de santé, l'éducation, tous les éléments, l'économie, les éléments clés pour un pays souffrent parce qu'on ne traite pas ces dossiers-là. Et donc, c'est grave. Et oui, il y a un ras-le-bol pour la classe politique qui n'est pas bien pour la démocratie. Moi, je parle surtout sur les jeunes. Et c'est une image de la politique électorale démocratique très nuisible. Et si les jeunes ont voté majoritairement pour les partis verts et les libéraux-démocrates, ce n'est pas étonnant. Il y a un désengouement pour les partis politiques traditionnels, le Parti travailliste, le Parti conservateur. Or, aux dernières élections, ils ont ramassé plus de 90% des voix. Mmh. C'est frappant.
Peut-on assister, Jeremy Stubbs, au même basculement en Grande-Bretagne qu'à celui qui a eu lieu en France il y a 2 ans et encore aux élections européennes, mmh, autour de la question de la souveraineté entre ceux qui sont pour un pays ouvert et ceux qui sont pour un pays peut-être un petit peu plus souverain, replié sur lui-même. Est-ce qu'on est sur le même clivage ?
Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que chaque pays est tellement différent qu'il est très difficile de les comparer. Si on regarde les gilets jaunes, c'est un phénomène qui n'a pas d'équivalent au Royaume-Uni. En revanche, il y a une sorte d'intériorisation au Parlement de toutes ces luttes, de toutes ces frustrations qui font que le Parlement est devenu une scène, il faut le dire, à la fois spectaculaire et absurde, mm-hmm, en ce moment. Mm-hmm. Et la difficulté, par exemple, pour le Brexit, c'est que d'un côté, il y a des gens qui sont pour le protectionnisme, tandis qu'il y a d'autres qui sont aussi brexiteurs, mais qui sont pour une ouverture à libre-échange sans limite. Donc il y a une contradiction fondamentale.
Sarah Picard, je vous ai vu marquer votre désaccord sur ma question, sur cette question du schisme, en fait, entre souverainistes et partisans de l'Union européenne.
C'est-à-dire qu'il y a des clivages très marqués en Angleterre, que ce soit régional, générationnel, etc. Et ce qu'on peut constater, on voit encore plus depuis la France, c'est les divisions très marquées et qui fait du mal au Royaume-Uni, les sortes de haine, on peut le dire, entre différentes personnes, par rapport au Brexit qui est enflammé par les personnages comme Nigel Farage. Et ça me frappe aujourd'hui, on est en train de commémorer le débarquement en France, et après bien sûr tout ce qui a suivi avec l'Union européenne, la construction. Et c'est quand même à ce moment-là où on voit ce que peut être fort, mais on voit un regard en arrière, une sorte de nostalgie vers cette époque-là et au-delà, l'Angleterre coloniale. On appelle ça « Little Englanders », l'Angleterre, comme vous avez suggéré, renfermée sur soi, protectionniste, isolationniste, individualiste.
Malheureusement,
et je trouve ça très triste.
Je le réitère, il y a une contradiction chez les Brexiteurs entre ceux qui sont peut-être isolationnistes ou je dirais plutôt protectionnistes, et ceux qui sont pour le libre-échange, mais pas avec l'Europe. C'est ça le problème. Je dirais même que les événements de ces derniers jours, avec les commémorations, ça nous a apporté une sorte de trêve dans toutes ces luttes, avec aussi le soulagement de la disparition de Theresa May, parce qu'en fin de compte, c'est un moment où, avec le président des États-Unis, qui est un allié important, avec M. Macron, avec Theresa May, qui est toujours avec la reine, on est d'accord pour le moment sur certaines valeurs internationales.
Le mandat de l'Assemblée des communes actuelle va, en principe, jusque, parce qu'en Grande-Bretagne c'est un petit peu différent sur les durées des mandats, en principe jusqu'au printemps 2022. Est-ce que vous voyez ce mandat aller à son terme et où est-ce qu'il y aura des élections générales avant, Jeremy Stubbs?
Là, on est, il faut le dire, on est dans une incertitude totale sur l'avenir. On sait qu'il y aura des vacances d'été, à part ça, on ne sait rien. C'est fort probable, mais la grande question en ce moment, avant d'en arriver là, c'est est-ce que un Premier ministre peut ignorer le Parlement pour laisser faire, en quelque sorte, la sortie le 31 octobre ? Et c'est ça la question qui arrive avant la question des élections générales. Mmh. Ce sont les relations entre le gouvernement et le Parlement.
Mais Sarah Picard, en quelques mots, vous voyez le Brexit arriver le 31 octobre ou pas ?
Non.
On verra ça. Merci beaucoup Sarah Picard et merci beaucoup Jeremy Stubbs d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assewa à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Fabrice Violet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec Andrea Delgrange pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.